Présenter donc le conférencier de ce soir, Gauthier Hulot, directeur de recherche CNRS à l'Institut de physique du Globe à Paris. Il est ancien élève de l'École normale supérieure de la rue d'Ulm. En 1987, il a été agrégé de sciences physiques. En 1992, il a eu un doctorat de géophysique interne à l'Université Paris 7. De 1996 à 2008, professeur chargé de cours à l'École polytechnique. Je lui cède la parole pour une cinquantaine de minutes, après quoi il y aura un débat avec le public. Merci.
Merci beaucoup. Je vais donc vous parler du champ magnétique de la Terre, passé, présent, futur. En fait, comme vous le verrez, l'objet est tellement complexe que je vais beaucoup passer de temps sur le présent, mais il sera intéressant de regarder le passé pour envisager le futur. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est que le champ magnétique terrestre? Eh bien, votre réponse, comme celle de n'importe qui, serait de dire « Eh bien, c'est ce qui va orienter ma boussole ». Et effectivement, où que vous soyez à la surface de la Terre, si vous sortez une boussole, vous allez voir votre boussole s'orienter, parce que c'est un petit barreau aimanté, et qu'il va sentir le champ magnétique ambiant, celui qui est produit par les sources qu'on trouve sur Terre. Donc le champ magnétique, c'est le champ créé par les sources terrestres. En haut à gauche, je vous montre quelques définitions avec lesquelles vous êtes peut-être familier, mais c'est tout de même un rappel. Le champ magnétique a une intensité, il peut être fort, il peut être faible, il est plus fort au pôle, moins fort à l'équateur, et il a une direction qu'on va repérer dans l'espace grâce à la déclinaison. C'est ce que mesure votre boussole, parce que la boussole est horizontale, elle ne permet pas à l'aiguille de s'incliner. Donc vous allez mesurer la déclinaison qui est comptée positivement vers l'est, pour des raisons d'ailleurs que je rappellerai. L'inclinaison, elle, est comptée positivement vers le bas, on peut la mesurer, mais avec une boussole d'inclinaison. Alors, évidemment, la question qui vient après, c'est qu'est-ce qui produit un champ magnétique, le champ magnétique terrestre, et de manière générale, un champ magnétique. Alors, quelques rappels, il y a deux façons d'obtenir un champ magnétique, soit je prends un aimant, soit, comme l'a découvert Hørstedt vers 1820, je prends un courant électrique, et si je fais une boucle de courant électrique, je vais obtenir quelque chose qui ressemble beaucoup à ce que produit un aimant, et de fait, il s'agit dans les deux cas d'un champ magnétique. Alors là, vous avez la limaille de fer, la fameuse expérience où on met de la limaille de fer, qui vous permet de voir que toutes les petites limailles se comportent comme des petites boussoles qui vous donnent la direction du champ, et vous voyez que ça s'organise le long de lignes de champ, et c'est pourquoi on aime représenter les choses via des lignes de champ comme elles sont représentées à droite. Alors, un peu plus précisément, dans le cas de la Terre, comment peut-on avoir un aimant naturel? Je parlerai des courants électriques plus tard. Un aimant est un solide. On ne peut pas avoir un aimant à l'état liquide ni à l'état gazeux. Les solides naturels qu'on trouve donc sur Terre, ce sont les roches. Ces roches sont un assemblage de minéraux. Ici, vous avez un granit breton. Dans le cas du granit, on voit bien les minéraux. Et ces minéraux, ce sont en fait de petits cristaux. Et si une roche est aimantée, c'est tout simplement parce qu'elle possède des minéraux aimantés. Donc l'aimantation naturelle des roches est liée à la présence de minéraux magnétiques dans ces roches. Alors maintenant, la question suivante, c'est pourquoi les cristaux eux-mêmes sont-ils aimantés? Alors là, la question relève de la physique et non plus des sciences naturelles. Et pour illustrer mon propos de manière simple, je vais regarder un aimant comme on en connaît tous, des aimants en fer. Et la raison pour laquelle un barreau de fer peut être aimanté, c'est que si je descends à l'échelle atomique et que je regarde le fer, les atomes sont les uns à côté des autres et eux-mêmes sont de petits aimants. Et ça, c'est lié à la nature des particules qui constituent ces atomes et à la façon dont ces atomes interagissent. Il se trouve que dans le fer, les atomes aiment bien avoir leur champ magnétique, leur barreau magnétique, si vous voulez, parallèle les uns aux autres. Ce n'est pas une chose triviale. Il a fallu un certain temps pour comprendre ça. Mais c'est la raison pour laquelle tous ces atomes s'alignant, ils finissent par s'additionner, comme si vous mettiez plusieurs aimants l'un à côté de l'autre, et j'obtiens un aimant, effectivement. Il y a tout de même une petite difficulté, c'est que comme les aimants n'aiment pas se mettre parallèles, les pôles se repoussent, eh bien à l'intérieur du fer, à une échelle un petit peu plus grande que l'échelle atomique, en fait, ces domaines qu'on appelle les domaines de Weiss vont avoir tendance à ne pas s'aligner. L'alignement se perd, Et le résultat net, c'est que votre barreau de fer, eh bien, j'espérais vous avoir expliqué pourquoi il était aimanté, ben, finalement, il n'est pas aimanté. Et de fait, un morceau de fer, en général, n'est pas particulièrement aimanté. Alors, comment se fait-il qu'un barreau de fer puisse quand même être aimanté de manière macroscopique? Alors là, il y a deux façons de procéder. Là, j'ai un diagramme qui rappelle donc les domaines de Weiss. Lorsque j'ai un morceau de fer quelconque, ces domaines sont orientés de manière aléatoire. Mais si je commence à soumettre ce barreau de fer à un champ magnétique, alors ce qui va se produire, c'est que les atomes vont avoir envie de s'aligner, comme tout aimant, dans le champ que je leur pose. Et les parois de ces domaines de Weiss vont se déplacer et progressivement, une aimantation macroscopique va apparaître. Alors, si je mets un petit champ magnétique, l'opération est relativement réversible. C'est-à-dire, si je retire l'aimant, eh bien, l'aimantation va disparaître. C'est l'exemple du clou qui est attiré par un aimant. Il est temporairement aimanté par l'aimant et il est attiré, mais si je le retire, il n'est pas spécialement devenu un aimant. Par contre, si je le soumets à un aimant, à un champ très intense, il va conserver une aimantation. C'est une première façon de faire, et pendant longtemps, on a fabriqué des aimants comme ça. Il y a une autre façon de faire, c'est le problème est toujours le même. Il s'agit de secouer, en quelque sorte, les atomes pour leur donner l'occasion de s'aligner. Vous pouvez aussi chauffer votre fer, et si vous le chauffez suffisamment, et ça, c'est de la physique du début du XXe siècle, eh bien, on constate, notamment Curie a constaté, c'est pourquoi il y a une température dite température de Curie, que si je dépasse une certaine température, les atomes deviennent suffisamment agités et libres pour finalement faire ce qu'ils veulent, et même un champ magnétique relativement modeste va les aligner. Si après ça, je laisse l'échantillon se refroidir à l'intérieur du champ, eh bien, ils vont avoir un alignement. Les domaines vont se reconstruire, mais statistiquement, vont se reconstruire favorablement pour avoir une aimantation permanente. On dira dans ce cas-là, d'ailleurs, une aimantation rémanente. Donc, vous voyez, deux types d'aimantation sont possibles. Alors, ça, c'était le fer. Dans la nature, on ne trouve pas de fer facilement. Quand on en trouve, c'est plutôt une météorite, parce qu'il y a de l'oxygène et que le fer va s'oxyder. Ce que l'on trouve, ce sont des oxydes de fer. Et parmi eux, il y en a un qui va nous intéresser tout particulièrement, la magnétite, ou l'oxyde magnétique, Fe3O4, parce que lui aussi va pouvoir porter une aimantation selon un principe analogue, pas exactement le même. Il n'est pas ferromagnétique comme le fer, mais il est ferrimagnétique. Ça ne changera pas grand-chose pour nous. Simplement, la température de Curie, dans ce cas-là, sera un petit peu moins élevée, 580 degrés Celsius. Bien sûr, il y a d'autres minéraux magnétiques, mais celui-ci est le plus important. On le trouve à peu près dans toutes les roches, en quantité variable. Il n'est pas ferromagnétique, comme je vous le disais. Et maintenant, on peut se poser la question de comment, eux, ces minéraux, ont été aimantés. Parce que personne n'a été là pour les aimanter. C'est la nature qui l'a fait. Alors là, il y a deux cas de figure. Ou bien il y a eu un fort courant électrique qui a produit un fort champ magnétique, comme on le fait pour les aimants. Et là, le seul cas où ça se produit réellement dans la nature, c'est quand il y a la foudre. Quand la foudre tombe, l'intensité du courant est telle, rappelez-vous, un courant électrique produit un champ magnétique, que votre roche va pouvoir s'aimanter. Et de fait, c'est comme ça que sont aimantés les premiers aimants que l'homme a découverts, les pierres d'aimants, lorsque la foudre tombait notamment sur des gisements de magnétite qu'on peut trouver à l'état relativement pur. Mais ça n'est pas le cas général. La plupart des roches ont en fait acquis leur aimantation parce qu'elles ont été chauffées au-delà de la température de Curie, ou plus exactement, pour un très grand nombre d'entre elles, parce qu'elles sont tout simplement mises en place à l'état fondu, ça va être le cas des laves, et en se refroidissant, eh bien, elles ont passé la température de Curie, et, point important, elles étaient pendant ce temps-là à l'intérieur du champ magnétique terrestre global, principal, dont je parlerai un petit peu plus tard, et c'est pourquoi ces roches se sont aimantées. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'elles sont donc aimantées, et en plus, l'aimantation témoigne de ce qu'il existait déjà, un champ magnétique, à l'époque où la roche s'est mise en place. Par ailleurs, il y a aussi un petit peu d'aimantation induite, parce qu'il y a toujours, en ce moment, un champ magnétique, et les roches le sentent. Alors, on va essayer de progresser. Un cas particulièrement intéressant sur lequel je vais tout de même passer assez vite est celui des basaltes que j'évoquais, parce que ce sont des roches riches en magnétite. Et lorsqu'une coulée de lave se met en place, elle se refroidit. Le champ acquiert, la roche acquiert une aimantation qui est un témoin. Et ça, c'est extrêmement précieux. C'est le fondement du paléomagnétisme qui va nous donner énormément d'informations sur le champ magnétique ancien. Il s'agit, en somme, d'une aimantation fossile. Alors, je résume rapidement. Deux sources possibles, des courants électriques et des roches porteuses de minéraux magnétiques, mais à condition que leur température soit inférieure à la température de Curie. Alors maintenant, je vais regarder la Terre dans son ensemble et me poser la question de savoir où je peux trouver de telles sources. Alors là, il y a la Terre très schématiquement. On sait, notamment grâce à la sismologie, mais tout un tas d'autres disciplines, de quoi est constitué l'intérieur de la Terre. Il y a au centre une partie qu'on appelle la graine, qui est en fait du fer à l'état solide. Puis il y a le noyau liquide. La graine est en fait la partie cristallisée du noyau liquide, et le noyau liquide, lui aussi, est en fer. Dans les deux cas, vous noterez, il s'agit de conducteurs électriques. Et puis au-dessus, il y a le manteau, qu'on décompose en un manteau inférieur et un manteau supérieur, mais peu importe pour nous, dans les deux cas, il s'agit de silicates, finalement de roches, un peu comme on observe à la surface de la Terre. Ce ne sont pas de très bons conducteurs électriques, et il y fait chaud, il y fait très chaud. À l'intérieur de la Terre, la température atteint 5000 degrés, 6000 degrés, on ne sait pas très bien, ce n'est pas très facile à déterminer, mais on est sûr de l'ordre de grandeur. Ce qui fait que la température augmente très vite quand on va à l'intérieur de la Terre. Et pour cette raison, la température de Curie est très rapidement dépassée. Donc le seul endroit où on est susceptible de voir de l'aimantation, c'est finalement dans la partie superficielle. Cela dépend évidemment de l'endroit où vous vous placez, puisque comme vous le savez, à la surface de la Terre, les choses sont compliquées. Il y a des montagnes, il y a des océans. La température n'est pas la même à proximité d'un volcan ou dans un vieux craton, une vieille région où il n'y a plus beaucoup de chaleur. Donc, il y a de l'aimantation, mais uniquement dans une pellicule superficielle. Alors, les courants électriques, où peut-on les trouver? Eh bien, la réponse est simple. Dans le noyau, la graine. Mais il ne suffit pas d'avoir un fil électrique pour avoir un courant électrique. Il faut aussi une pile, il faut aussi un générateur. Et donc, la question suivante est, où est le générateur de courant? Alors, je vais essayer de vous expliquer ça de manière simple en faisant de nouveau appel à des choses que vous connaissez. Vous savez que si vous mettez un aimant, et c'était la découverte de Faraday, si je déplace un fil électrique devant le champ de cet aimant, je fais apparaître une différence de potentiel entre les deux extrémités du fil. Et si je bobine convenablement dans le même sens mon fil, que je l'installe comme je l'ai fait ici, alors en pratique, ce ne serait pas très simple, c'est très schématique, mais vous voyez que si je fais tourner ma manivelle, je vais faire passer mon fil électrique devant le champ magnétique, pôle nord, pôle sud, pôle nord, pôle sud. Et quand on regarde la géométrie de ça, on voit qu'on fait effectivement une force électromotrice, une différence de potentiel constructive et fait apparaître un courant. En fait, là, c'est tout simplement une dynamo. C'est le principe de la dynamo d'une bicyclette, encore que une bicyclette, la dynamo n'est pas montée exactement comme ça. Deuxième principe, on l'a déjà vu. Une boucle de courant crée un champ magnétique. Si je bobine suffisamment bien, je vais fabriquer ce qu'on appelle un électroaimant. Autrement dit, cette fois-ci, avec un courant, je fabrique un champ magnétique. Tout à l'heure, avec un champ magnétique, je fabriquais un courant. Dans les deux cas, plus je tourne la manivelle tout à l'heure, plus je vais générer de courant. Et ici, plus je mets de courant, plus je génère de champ magnétique. Alors vous allez voir que ça, c'est une propriété qui est utile. Parce que maintenant, ce que nous allons faire, c'est revenir à la dynamo. Et puisque un courant électrique peut remplacer un aimant, eh bien, on va le faire. Et c'est effectivement ce qu'on va faire, je remplace l'aimant permanent par le bobinage. Alors vous allez me dire, il faut un champ magnétique au début. Effectivement, il suffit de mettre un aimant à proximité avec un champ magnétique. Si je tourne suffisamment ma manivelle, si je vais assez vite, eh bien, comme je vous le disais tout à l'heure, plus je tourne, plus pour un champ donné, je vais fabriquer de courant. Mais plus je fabrique de courant, plus j'augmente le champ. Donc vous voyez, tout est constructif. Et effectivement, j'ai là quelque chose qui va pouvoir fonctionner, du moins dans le principe. C'est exactement ce qui se passe à l'intérieur de la Terre. Accessoirement, d'ailleurs, je vous signale, c'est comme ça qu'on fabrique de l'électricité de manière générale. Alors, à l'intérieur de la Terre, c'est comme ça que ça se passe, mais à un gros détail près, c'est que l'ensemble du dispositif est complètement fondu. Donc là, il n'y a pas quelque chose dont on impose le bobinage, qui est fixe. Il y a, à l'intérieur de la Terre, un noyau fondu, et il se trouve que ce noyau fondu va se comporter comme une dynamo auto-entretenue. Alors, il y a tout de même un certain nombre de questions qui restent. Car là, dans mon exemple, c'est moi qui tourne la manivelle et qui produit l'électricité et le champ magnétique. Comment le noyau fait-il, lui ? Qui tourne, qui agite le noyau pour produire les mouvements ? Donc, en fait, il faut quelque chose de supplémentaire. Et la chose supplémentaire, c'est le fait que le noyau, dont je vous disais tout à l'heure qu'il était chaud, cherche encore à se refroidir. Depuis que la Terre s'est formée, de manière générale, la Terre cherche à se refroidir. Et il se trouve que quelque chose de chaud qui cherche à se refroidir, pour peu que vous le refroidissiez à son sommet, cela déclenche un phénomène de convection. Alors le phénomène de convection, on le connaît bien dans une casserole d'eau quand on met sur le feu. Avant que ça boue, on voit bien que l'eau se met en mouvement parce qu'on la chauffe en bas, elle se dilate, elle est moins dense et elle monte. Mais on n'est pas obligé de chauffer pour avoir de la convection. On peut tout simplement refroidir par le sommet. C'est comme ça, par exemple, que un bol de bouillon va se refroidir bien plus vite qu'un bol de purée. Un bol de purée, il ne peut pas convecter. Par contre, le bouillon, lui, il est refroidi par-dessus et il va se mettre en mouvement. Donc, le noyau, c'est exactement la même chose. Il est refroidi par son sommet et la matière du noyau, qui est refroidie, devient plus dense et se met à couler. Et c'est ça qui provoque l'apparition des mouvements. Mais ça n'est pas si simple, parce que le noyau est à l'intérieur d'une planète qui tourne sur elle-même. Et vous savez que quand on tourne, on est dans un référentiel tournant. Si vous êtes par exemple sur un manège qui tourne raisonnablement vite et que vous cherchez à marcher droit, vous savez que vous avez du mal. Vous êtes perpétuellement poussé par une force qu'on appelle la force de Coriolis qui vous pousse latéralement, perpendiculairement au mouvement. La même chose se produit dans le noyau et accessoirement, exactement la même chose se produit aussi dans l'atmosphère. C'est la raison pour laquelle les mouvements sont autour des hautes pressions, basses pressions et non pas directement. C'est les cyclones, anticyclones que vous connaissez bien dans l'atmosphère. Là, on se produit la même chose. Et c'est ça qui va organiser la convection à l'intérieur du noyau. Il n'y a pas que ça parce que dès lors que le champ magnétique apparaît, puisque précisément il va tirer son énergie du mouvement, il va influencer le mouvement. Donc vous voyez que cette convection, elle est compliquée. Mais le miracle, et c'est un véritable miracle pour lequel on n'a pas d'autre explication que le fait que lorsque l'on met toutes les équations, ça marche, eh bien le miracle, c'est que ces mouvements s'organisent de manière constructive et qu'effectivement, pour peu que la convection soit suffisamment vigoureuse et le liquide suffisamment conducteur, un champ magnétique va spontanément apparaître. Et d'ailleurs, on trouve des champs magnétiques dans les étoiles et dans toutes les grandes planètes assez facilement, pour peu, bien entendu, que les conditions soient réunies. Alors, je vous affirme ça, mais on a mis un certain temps avant de pouvoir affirmer ça. Et le seul moyen de le faire, c'est la simulation numérique. Et les capacités de calcul n'ont permis de faire des simulations véritablement démontrant ce que je viens de vous dire à partir des années 80. Alors, je reviens un petit peu sur les sources. Maintenant, nous savons que le noyau engendre le champ principal, c'est le plus fort. Ce champ magnétique, évidemment, va s'échapper du noyau, il traverse le manteau, il ne se passe pas énormément de choses, et il arrive à la surface, et c'est pourquoi les roches, lorsqu'elles se mettent en place à la surface, vont voir un champ magnétique. Et c'est comme ça qu'apparaissent l'aimantation des roches. Et puis après, ces lignes de champ ne vont pas s'arrêter là, elles continuent, elles s'échappent, l'aimant, vous savez, les lignes de champ peuvent partir à l'infini en principe. Dans le cas de la Terre, il y a quelque chose qui va faire obstacle, c'est le vent solaire. Alors là, vous allez voir, c'est encore une autre histoire. Le vent solaire, on va le rencontrer et ça va avoir une influence sur le champ. Il va se passer tout un tas de phénomènes que je vais tâcher de vous décrire maintenant. Alors d'abord, quelques mots sur le Soleil lui-même. Le Soleil ne nous envoie pas que de la lumière, que des photons, il nous envoie aussi de la matière. Il perd à peu près une mégatonne de matière par seconde, et ce qu'il envoie, c'est ce qu'on appelle communément le vent solaire, qui n'est pas régulier. De temps en temps, un certain nombre de phénomènes se produisent à la surface du Soleil, on dit à ce moment-là qu'il y a une tempête solaire, et le résultat, c'est que le Soleil va envoyer d'énormes bouffées de matière. Alors, différents phénomènes, différentes classifications, mais pour nous, ce qui compte, c'est que lorsque ces bouffées partent, d'abord, elles sont de taille considérable, et puis ensuite, elles vont partir dans l'espace interplanétaire, et si la Terre a le malheur d'être sur le chemin de l'une de ces bouffées, eh bien, on risque de rencontrer un certain nombre de phénomènes. La première chose qui va se passer, c'est que ce vent solaire, qui est constitué essentiellement de protons et d'électrons, parce que le Soleil lui-même est essentiellement constitué d'hydrogène, eh bien, c'est un plasma, c'est un très bon conducteur. Il transporte avec lui aussi un champ magnétique qui vient du Soleil. Et lorsque ce vent solaire va rencontrer le champ magnétique de la Terre, le premier effet, c'est qu'il va comprimer le champ magnétique de la Terre, qui va à ce moment-là être animé de tout un tas de phénomènes que je vais essayer de vous décrire rapidement. Alors, deux cas de figure importants sont liés à la nature du champ magnétique transporté. Si le champ magnétique est dans le bon sens, ça va secouer, on va dire, pour simplifier, le champ magnétique de la Terre. Mais ça n'aura pas de conséquences trop sévères. Par contre, si jamais le champ magnétique est dans le mauvais sens, opposé, alors là, il se produit un phénomène qui va être nettement plus sévère. Alors là, j'ai un petit film, une animation NASA que je vais essayer de vous passer, qui illustre de manière schématique. Alors ça, ce n'est pas la réalité, hein, c'est une animation. Donc vous voyez le Soleil qui va émettre une bouffée de vent solaire substantiel qui va traverser. Il faut à peu près 2-3 jours pour que ça arrive jusqu'à la Terre. Et là, j'arrête le film un instant, vous voyez l'effet de compaction sur le champ magnétique de la Terre, et vous voyez aussi que celui-ci joue un rôle protecteur. Le vent solaire va contourner la Terre. Mais si le champ magnétique est mal orienté, il se produit le phénomène suivant que je vais essayer d'attraper au vol. Je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a une ligne de champ de la Terre qui s'est cassée, qui s'est ouverte. Et le phénomène qui va se produire, c'est qu'une partie du vent solaire va être emportée par cette ligne de champ qui va se refermer, et ce vent solaire va se retrouver à l'intérieur de la coquille protectrice du champ magnétique, à l'intérieur de ce qu'on appelle la magnétosphère. Alors à l'intérieur de la magnétosphère, après ça, il se produit un certain nombre de phénomènes, notamment dits de reconnexion, où la ligne de champ se reconnecte et revient vers la Terre, ramenant avec elle une partie de toutes ces particules qui vont ensuite poursuivre leur chemin, puisque une particule sent le champ magnétique, et l'effet net, c'est que la particule va spiraler autour de la ligne de champ vers jusqu'à rencontrer, elle est orientée, guidée par la ligne de champ. Et là, dans ce cas, vous voyez, les particules arrivent à la surface de la Terre, plus exactement, rencontrent l'atmosphère, et c'est ça qui produit les aurores boréales. Alors les aurores boréales, c'est le côté joli des choses. Toutes ces choses-là sont extrêmement sévères en termes d'énergie, et ces rayonnements, ces particules, sont extrêmement dangereuses. Alors je finis juste mon petit film. Je vais essayer de vous dire deux, trois choses sur, en résumant, ces sources. Donc le vent solaire, en comprimant, vous voyez, fait apparaître un grand nombre de courants électriques que j'ai résumés ici avec les flèches vertes. C'est en général la situation, vous voyez que c'est compliqué, je ne vais pas rentrer dans les détails. Et ces courants électriques, évidemment, vont être une source secondaire pour le champ magnétique. Si je suis à la surface de la Terre avec ma boussole, je vais le voir, notamment pendant un orage magnétique. La boussole va s'agiter peu, mais je vais quand même le voir, sauf lorsqu'il y a un très gros orage. Une autre chose qui est importante, c'est que cette magnétosphère, elle est peuplée de particules. Et ces particules rendent l'espace interplanétaire dangereux. Alors, nettement moins dangereux que quand on est en dehors de la magnétosphère, mais c'est tout de même dangereux. Il y a un autre phénomène aussi que je dois mentionner à ce propos, c'est que certaines particules dites de rayons cosmiques, qui, elles, proviennent de l'ensemble de l'espace, produites par d'autres étoiles, par des supernovas, et qui sont extrêmement énergétiques, bien qu'étant chargées, arrivent tellement vite qu'elles ne sont que peu influencées par le champ magnétique. Autrement dit, elles n'ont pas de difficulté à rentrer dans la magnétosphère. Elles rentrent dans la magnétosphère, elles rencontrent l'atmosphère, et là, l'atmosphère va les arrêter en provoquant, il y aura des réactions nucléaires, qui vont par exemple faire apparaître, transformer de l'azote en carbone 14, la datation carbone 14, le carbone 14 vient de ce type de processus, mais surtout va provoquer l'injection de tout un tas de particules dans la magnétosphère, et ces particules vont continuer le petit mouvement de spirale le long des lignes de champ, mais avec un mouvement de rebond, parce que quand la particule rencontre un champ plus intense, elle est ralentie et elle repart dans l'autre sens. C'est ce qui constitue les ceintures de Van Allen, ou ceintures de radiation, dont vous avez peut-être entendu parler, et qui sont elles-mêmes très dangereuses. Donc si vous avez des satellites autour de la Terre, il vaut mieux éviter ces régions-là. Ça tombe plutôt bien. Si on est suffisamment bas, la plupart des satellites sont soit en basse altitude, ce qui permet d'éviter, alors là je vais essayer de montrer avec la flèche, les ceintures de Van Allen, mais vous allez voir qu'on ne peut pas les éviter complètement. Ou alors, on a des orbites géostationnaires à 36 000 km qui sont nettement plus loin. Et là, on est dans une région où il y a effectivement les ceintures de Van Allen, mais on peut éviter les régions les plus énergétiques. Deux mots à ce propos aussi. C'est l'obstacle principal, le vent solaire, ces rayonnements, l'obstacle principal au voyage de l'homme vers les autres planètes. Même vers la Lune, le voyage est extrêmement périlleux et tout le monde considère aujourd'hui que c'est un miracle qu'aucun des astronautes américains n'ait été irradié. Parce que la Lune, elle orbite à 60 rayons terrestres. Donc vous voyez, elle est en permanence en train de rentrer, sortir, mais elle passe bien plus de temps en dehors de la magnétosphère terrestre. Elle est loin dans la queue et elle est donc facilement exposée au Soleil. Et donc, comme je vous le disais, c'est un des obstacles importants au voyage de l'homme dans l'espace. Alors, pour finir le panorama, vous voyez que c'est très riche, le sujet. On va regarder un petit peu plus bas. La magnétosphère, c'est la région où on trouve toutes ces particules, mais si je me rapproche de la Terre, je vais rencontrer l'atmosphère. La partie supérieure de l'atmosphère est ionisée. Alors, elle, c'est différent. Pourquoi est-elle ionisée? C'est assez simple. Je vous disais, le Soleil envoie des photons. Il n'y a pas que de la lumière visible. Il y a de la lumière qui n'est pas visible, des rayons X, des ultraviolets, et ceux-là vont ioniser la partie supérieure. Mais évidemment, vont ioniser que du côté jour, là où il y a le Soleil. Parce que par ailleurs, évidemment, ces réactions d'ionisation sont des réactions qui sont réversibles, et dès que je supprime la source de photons, eh bien ça se recombine et je retrouve une atmosphère neutre. À peu près. C'est un petit peu plus compliqué. Mais le point essentiel, c'est que du côté jour, je vais avoir une masse ionisée à la surface de la Terre, dans la surface de l'atmosphère, dans la partie haute. Et en plus, cette atmosphère, elle est chauffée. Quand elle voit le soleil, elle se dilate. Quand elle voit la nuit, elle se contracte. Donc vous avez un conducteur qui est en déplacement à l'intérieur, une fois de plus, du champ magnétique principal du noyau, et vous allez induire des courants électriques. Ces courants électriques vont à leur tour engendrer un petit champ magnétique. C'est la dynamo ionosphérique qui est une des sources. Et là, j'ai à peu près fait le tour des sources du champ magnétique terrestre. Alors, j'en ai oublié quelques-unes. Pour résumer, la dynamo à l'intérieur du noyau, l'aimantation des roches, la dynamo ionosphérique, je m'éloigne du centre de la Terre, et puis toutes ces particules chargées qu'on trouve dans la magnétosphère. Bon. Eh bien, ma boussole, elle voit tout ça. Parce que elle ne se préoccupe pas de savoir qui a fabriqué le champ magnétique, elle voit la somme du champ magnétique. Elle s'oriente là où la somme des vecteurs me dit que le champ magnétique est. Ça n'est pas simple. Mais heureusement, chacune de ces sources a ses caractéristiques propres, et c'est ça qui nous permet de les étudier, de les identifier, et de les étudier séparément. Alors, je vais parler un petit peu d'observation maintenant. Comment fait-on pour observer le champ magnétique? Évidemment, vous allez me dire de nouveau la boussole, mais aujourd'hui, on utilise des outils au fond, qui donnent les mêmes informations, simplement ils sont plus précis, capables de mesurer des choses qui varient plus vite. Mais surtout, si vous n'avez une mesure qu'en un point, vous ne faites pas grand-chose. Ce qui est important, c'est de pouvoir mesurer le champ magnétique sur l'ensemble de la surface de la Terre. Alors on a, grosso modo, deux façons de faire. Soit je me mets à un point fixe dans un observatoire, un grand nombre d'observatoires, et là le gros avantage, c'est que je suis fixe. Si le champ magnétique varie, je sais que c'est parce que les sources ont varié dans le temps. Mais les observatoires sont coûteux à entretenir, et puis on ne peut pas en mettre dans les océans. Donc on aime aussi observer le champ avec des satellites. Alors on le fait, les premiers satellites mesuraient déjà le champ magnétique, mais il faut une instrumentation extrêmement performante pour avoir des informations utiles. Ce n'est que vers 1980, le premier satellite vraiment utile, américain, MagSat, qu'on a eu les premières informations grâce aux satellites. Après ça, il a fallu à peu près 20 ans pour qu'on se redécide, la communauté se redécide, ou plus exactement, les autorités se redécident à soutenir la communauté dans leur projet d'avoir de nouveau un satellite. Et là, c'est les Danois qui ont envoyé un satellite en 1999, puis les Allemands en 2000. Et aujourd'hui, nous travaillons sur un projet avec l'ESA pour une série de 3 satellites qui seront lancés en 2010 pour prendre la relève. Parce que malheureusement, les satellites finissent par tomber en panne. Pour quelle raison d'ailleurs? Tout simplement parce qu'ils croisent les particules dans la magnétosphère. Donc les satellites. Alors le gros avantage des satellites, c'est qu'ils offrent une forte couverture géographique. Donc vous avez ici un petit schéma. Oups, pardon, excusez-moi, j'ai fait une bêtise. Donc le schéma ici, avec la distribution des observatoires, et puis pour vous donner une idée, l'orbite du satellite Hochstedt en un jour. Donc vous voyez la couverture. Alors c'est ça, avec ça, c'est qu'on peut avoir des informations. Alors, quand même, vous montrer quelques données, illustrer les sources. Si vous prenez une journée calme, c'est-à-dire qu'on n'est pas au moment où il y a une tempête solaire, un orage magnétique, eh bien ce que vous allez voir dans un observatoire en une journée, c'est la signature de l'ionosphère, parce que vous, vous êtes en train de tourner devant le soleil, et le système de courant électrique, finalement, il est stationnaire vis-à-vis du soleil. Donc tout se passe comme si vous étiez en permanence en train de passer sous une boucle de courant, vous vous éloignez, vous allez de l'autre côté, vous vous rapprochez, et ça vous donne un signal qui est, comme vous pouvez le constater, là c'est 24 heures, faible la nuit et fort pendant le jour. Alors ça, c'est un jour calme. La magnétosphère intervient, mais ne fait pas un signal très sévère. Un jour où il y a un orage magnétique, le signal est beaucoup plus important. J'ai peut-être oublié de dire tout à l'heure que l'amplitude était de l'ordre d'une dizaine de nanotesla, et comme vous allez le voir juste après, le champ magnétique terrestre se mesure, comme tout champ magnétique, en tesla. On utilise le nanotesla parce que vous allez voir, il y a beaucoup de choses qui sont petites. Donc une dizaine de nanotesla pour le champ ionosphérique. Pendant un orage magnétique, en France, ça ce sont des données d'un observatoire français, Chambon-la-Forêt, et là, on atteint des signaux qui sont de quelques centaines de nanotesla, et vous voyez que ça dure à peu près 2 jours. C'est le temps qu'il faut pour que la bouffée de vent solaire passe son chemin. Si maintenant je m'intéresse à des constantes de temps plus longues, le champ magnétique, vous voyez, n'est pas du tout constant. Le champ magnétique produit par le noyau évolue au cours du temps. C'est ce qu'on appelle la variation séculaire, parce qu'effectivement, elle se produit essentiellement à l'échelle du siècle. Et là, vous voyez sur ce schéma. Alors, ce sont 3 composantes, X le nord, Y l'est, Z la verticale. Je vous avais donné le petit schéma vous donnant les définitions plus tôt. Là, le champ magnétique, vous voyez, est de l'ordre de 40 000 nanotesla en France. Et il varie au cours du temps de manière tout à fait significative. Alors, peut-être de manière plus illustrative, vous pouvez regarder ce schéma-là qui représente la déclinaison en fonction de l'inclinaison au cours du temps. En 1670, quand on a commencé à mesurer de manière systématique le champ magnétique, la déclinaison était proche de zéro. En fait, d'ailleurs, un peu plus tôt, elle était positive. Et c'est accessoirement pour cette raison qu'on compte la déclinaison positive vers l'est, parce que quand elle a été découverte en Europe, eh bien, elle était positive vers l'est, et on ne savait pas qu'elle bougeait, donc on n'allait pas mettre un signe négatif. Mais il se trouve qu'entre-temps, elle a changé de signe. Donc vous voyez, la déclinaison était proche de zéro. Et puis elle est allée jusqu'à 25 degrés vers l'ouest, vers 1800, et puis maintenant elle est en train de se rapprocher, et bientôt en France d'ailleurs, la déclinaison sera de nouveau de zéro. Alors, ça je vous ai montré ce qui se passait quand je suis à un observatoire, un point fixe en France. Mais bien entendu, qu'est-ce qui se passe si maintenant je me déplace avec les satellites, je veux regarder l'extension spatiale? Qu'est-ce qui se passe avec ma boussole si je me promène en France et à travers le monde? Alors pour retrouver ça, il faut combiner les données des observatoires et les données des satellites. Et c'est là le gros avantage. Quand on combine les deux, eh bien on peut avoir une vision spatio-temporelle du champ magnétique. Alors là, je vais vous montrer un petit film qui a été fait par notre collègue Niels Olsen au Danemark, avec qui nous travaillons sur le projet SWARM. Ce petit film vous montre, en fait, là, dans l'immédiat, le champ magnétique total, à peu près 400 km d'altitude. Et la représentation couleur, c'est la composante radiale. Donc, pour simplifier, si c'est rouge, c'est que les lignes de champ sortent. Si c'est bleu, c'est que les lignes de champ rentrent. Donc, vous voyez, les lignes de champ sortent du sud, rentrent dans le nord. L'équateur est représenté par, grosso modo, la zone blanche, complètement dominée par un champ qui est essentiellement dipolaire, comme effectivement, depuis très longtemps, on imaginait que la Terre avait son aimant. Mais vous allez voir que le champ est plus compliqué que ça. Alors, je vais faire ce petit film, il va tourner sur lui-même. Vous allez voir un éclairage. L'éclairage, c'est l'éclairage du Soleil. Alors, l'idée, c'est que si une structure suit l'éclairage du Soleil, c'est qu'elle est stationnaire par rapport au Soleil. Si, au contraire, elle tourne avec les lignes des continents, c'est qu'elle est solidaire de la Terre. Ça va nous permettre de bien voir ce qui se passe. Et on va faire une espèce de striptease. Je vais retirer le champ magnétique du noyau. Évidemment, tout ça est une représentation a posteriori. Grâce aux mesures, on est capable de faire ça. Vous ne pourriez pas le faire dans la réalité. Mais en imaginant que la dynamo s'arrête, qu'est-ce qui reste? On verra à ce moment-là la deuxième source la plus importante, la magnétosphère. Puis je retirerai la magnétosphère, la troisième source la plus importante, l'ionosphère. Puis je retirerai et on verra la source suivante, crustal, les roches de la croûte. Et enfin, à la fin, pour illustration, le signal que produirait, qu'on a détecté, mais qu'on n'a jamais véritablement vu sous la forme que vous allez voir, le signal produit par les marées océaniques. Donc je vais commencer le film maintenant que vous savez à peu près de quoi il s'agit. Donc là, il ne veut pas venir. C'est un grand classique. Il a décidé de ne pas venir. C'est tout à fait regrettable. Bon, écoutez, ce que je ferai, c'est que je vous le montrerai à la fin. Si j'y parviens, c'est assez irritant. Bon, écoutez, je regrette. Oui. Je vous le montrerai à la fin si je parviens à le lancer. C'est un peu dommage parce qu'on voit bien à ce moment-là les différentes sources. Alors, est-ce que je peux me permettre, avec un peu de chance, bougez pas. Alors, ne regardez pas trop le bazar. Je vais essayer de faire ça vite. C'est toujours très périlleux. Non, c'était pas là. Non, j'ai peur de faire une... Ah, peut-être... Attendez, bougez pas. Peut-être que dans une version précédente, il aura la bonne idée de bien vouloir marcher. C'est le même exposé, mais avant que je ne le finalise. Alors, je vais essayer de faire vite. Le voilà. Je vous remercie de votre patience. Voilà, alors on va essayer de lancer celui-là, s'il veut bien. Oui, il va vouloir tourner. Voilà. Merci. Donc voilà le champ magnétique principal. Alors je ne vais pas trop le chatouiller. J'espère que vous avez vu qu'il était donc essentiellement dipolaire. Là, on l'a déshabillé et on amplifie l'échelle des couleurs parce que maintenant, vous voyez, le signal est de l'ordre de 60 nanotesla. Ce qu'on voit, c'est encore un dipôle essentiellement parce qu'on est à l'intérieur de la grande boucle de courant de la magnétosphère. Alors si je retire ça, je vois une structure qui suit le Soleil. Ça, c'est les courants de l'ionosphère qui sont face au Soleil. Vous voyez, ils font le tour avec le Soleil. Alors on voit déjà derrière un peu de granulométrie qui est liée au signal du champ crustal qu'on commence à voir, mais on va le dilater. À l'échelle des satellites, le signal est assez faible, une dizaine de nanotesla, et on voit les plus grandes anomalies, c'est-à-dire les grandes structures aimantées de la croûte terrestre. Et si je retire ça, je vois donc, alors ça c'est assez théorique, c'est une simulation, le signal que produiraient les marées océaniques. Donc voilà. Merci le film. Nous allons revenir maintenant. Alors, je ne vais pas faire de bêtises. À l'exposé complet. Voilà. On va laisser celui-là ouvert, s'il nous arrivait de nouveau. Voilà. Alors, la suite. La suite, ce que je voulais vous dire, c'est qu'évidemment, avec les satellites, comme on est à 400 km d'altitude, on a du mal à voir les petites structures. Parce que vous savez qu'un champ magnétique, la source, vous sentez le champ magnétique d'autant plus que vous vous en approchez. Et ce petit schéma illustre la situation parfaitement. À 400 km, la carte du haut, vous voyez la France, l'anomalie magnétique, le champ produit par les sources crustales au niveau de la France est assez faible et il a la taille, grosso modo, de la France. Mais si on utilise des avions, des hélicoptères, et pour tout un tas de raisons liées à l'utilité d'établir de telles cartes de l'aimantation des roches, parce qu'il faut savoir qu'il y a une utilité essentielle à ces cartes. Elles vont vous permettre de voir la structure du sous-sol. Et c'est par exemple une des premières choses que l'on fait quand on fait une prospection. Toute société qui prospecte commence toujours par un levé magnétique. C'est quelque chose qui se fait facilement et qui donne beaucoup d'informations. Ce n'est évidemment pas la seule chose que l'on fait. Mais vous voyez que grâce à ça, on peut voir des structures beaucoup plus fines. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, récemment, la communauté a rassemblé... Alors, le travail n'est pas achevé, mais ça, c'est la première compilation mondiale de l'ensemble des données qui a été publiée sous l'égide de l'UNESCO il y a peu de temps et qui montre l'aimantation de l'ensemble de la croûte terrestre. Alors, cette carte est un petit peu fausse, au sens où c'est un composite entre ce qui est vraiment mesuré et ce qu'on attend pour des raisons géophysiques, parce qu'on a compris une partie des sources du champ magnétique des roches. Mais peu importe. Là, ce que vous voyez en bas à droite, en bleu, ça veut dire que vous avez le haut de la carte est très très bien représenté par de vraies données. Donc ce sont de vraies données. Et dans certaines régions, les levées n'ont pas été aussi précis que dans d'autres. Donc ne faites pas forcément attention à la disparité d'échelle. La chose essentielle que je dirais sur cette carte, parce que je ne traiterai plus du champ crustal après, c'est qu'elle est extrêmement riche en informations sur le sous-sol, mais aussi sur la géodynamique. Rappelez-vous, cette carte contient l'histoire du champ magnétique de la Terre, mais aussi, finalement, des informations sur les roches elles-mêmes. Je prendrai un seul exemple qui sera détaillé bien plus demain par Jean Besse, qui vous parlera de ces choses. Si vous regardez l'océan Atlantique, vous voyez qu'il y a des alignements des anomalies. Ça, c'est tout simplement, et c'est très facile à expliquer aujourd'hui, mais à l'époque, quand ça a été découvert, ça a contribué à comprendre ce qui se passait à la surface de la Terre. Eh bien, c'est tout simplement parce que sur les dorsales océaniques, là où il y a du volcanisme, il y a tout simplement de la lave qui sort, qui se refroidit, qui s'aimante à l'intérieur du champ magnétique, et au fur et à mesure que la lave sort, l'océan va s'écarter, les anciennes laves vont s'éloigner, mais évidemment en ayant le même âge pour toute une région parallèle à l'axe de la dorsale. Et ce qui fait que le fond océanique est aimanté de manière alignée comme ça. Alors quand ça a été découvert, ça a contribué à la découverte de l'expansion des fonds océaniques, de la tectonique des plaques, etc. Et ça permet de reconstituer aussi donc, la géodynamique. Alors je voudrais refaire un petit peu mon retard. Deux mots maintenant sur le champ magnétique historique, parce que je vous ai parlé là des mesures contemporaines, le champ actuel, ce que je peux voir. Il est important de savoir que le champ magnétique est étudié, c'est probablement un des objets naturels étudiés depuis le plus longtemps. Quelques rappels historiques, la boussole est connue depuis à peu près 2 millénaires chez les Chinois, elle arrive en Europe vers le 12e siècle, on met un certain temps à découvrir l'inclinaison, mais le point important, c'est qu'on se rend compte que la déclinaison n'est pas la même partout et que si on veut utiliser la boussole pour la navigation, ce qui est un souci économique certain à l'époque, eh bien, il fallait avoir des cartes. Et donc, on a commencé à construire des cartes. Ici, je vous montre l'une des toutes premières cartes construites par Halley, celui de la comète, en 1701. Et après ça... C'est à peu près à ce moment-là qu'on se rend compte aussi que les cartes, c'est bien d'avoir une carte, mais il faut les mettre à jour régulièrement parce que le champ magnétique de la Terre varie, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Et à peu près au XVIIe siècle, les différentes académies se rendent compte qu'il est utile à ce moment-là d'avoir des observatoires pour suivre l'évolution du champ. C'est de cette époque-là que datent les premiers observatoires. Un nouvel essor au XIXe siècle sous l'impulsion de Gauss, qui découvre la façon dont on peut mesurer l'intensité du champ. Autrefois, on ne savait mesurer que l'inclinaison, la déclinaison, parce qu'on n'avait que des boussoles. Donc, tout un historique et un corpus considérable de données historiques qu'on va pouvoir utiliser aujourd'hui pour essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe. Alors, juste un mot supplémentaire, c'est on a tendance à dire « Ah, autrefois, le champ magnétique, c'était très important pour s'orienter », mais figurez-vous qu'aujourd'hui encore, on continue à utiliser le champ magnétique pour l'orientation. Nous fournissons régulièrement les informations pour mettre à jour les cartigènes. Nous donnons aussi des informations à l'aviation civile parce que le numéro que vous voyez sur cette piste est une information sur la direction du champ magnétique parce que les avions ont encore et toujours une boussole, on va dire pour simplifier. Pourquoi ? Tout simplement parce que le GPS, ça peut tomber en panne. Et le champ magnétique, lui, alors sauf évidemment, quand on est dans un très gros orage, Le champ magnétique, lui, il est fidèle et il n'est arrêté par rien. Et je dirais même que, du point de vue militaire, il est impossible à brouiller. Et donc, il y a aussi beaucoup d'applications militaires d'utilisation pour l'orientation dans le domaine militaire. Je vous montre ici aussi la nécessité de mettre à jour les cartes, particulièrement en haute latitude, parce que le pôle évolue vite. Ici, le pôle magnétique nord, qui est donc au Canada, son évolution en à peu près 150 ans. Donc, vous voyez que ces déplacements sont importants. Et effectivement, les pays nordiques, notamment le Canada, met à jour très régulièrement ces données. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec ces données historiques? Bien sûr, on peut refaire les cartes de déclinaison, regarder comment ça évolue. Les premières interprétations de ces cartes disaient, au fond, tout se passe comme si on avait une dérive vers l'ouest du champ magnétique. Mais ces observations ont été faites plutôt en Europe. Et comme vous pouvez le constater, on ne peut pas vraiment dire qu'on peut expliquer facilement avec une dérive vers l'ouest ce type de déplacement. En fait, ça n'est pas très intéressant de regarder ce qui se passe à la surface de la Terre, parce que ce n'est pas là que le champ magnétique est étudié, est produit. Alors c'est important si on veut faire des cartes, mais si on veut comprendre pourquoi le champ varie, c'est pas là qu'il faut regarder. Il faut regarder à la surface du noyau, parce que c'est de là que vient le champ magnétique. Or, il se trouve que le champ magnétique a ça de sympathique que mathématiquement, formellement, on peut en quelque sorte remonter les lignes de champ. Alors, je vais essayer de vous illustrer ça maintenant. Là, vous avez une carte qui reprend un petit peu la même illustration que mon petit film de tout à l'heure. Bleu, là où ligne de champ rentre, rouge, là où elle sort. On est toujours à la surface de la Terre. Vous remarquerez, j'attire maintenant votre attention, sur le fait qu'on a une région dans l'Atlantique Sud où le champ est manifestement faible. Il est rouge, mais il n'est pas très intense. Cette région, elle est très intéressante pour de nombreuses raisons, y compris pratiques, comme je vous le montrerai un petit peu plus tard. Mais si je veux savoir pourquoi il y a une tache comme ça, il est important que j'aille voir ce qui se passe à la surface du noyau, ce que je peux faire. Lorsqu'on fait ça, vous voyez que le champ est très différent. Je me rapproche des sources. C'est la même chose, le même phénomène que tout à l'heure. Grâce aux avions, quand je me rapproche des sources, je vois davantage de détails. Et là, vous voyez qu'à la surface du noyau, si le champ est essentiellement dipolaire, il est plutôt bleu au nord, plutôt rouge au sud, il n'est par contre pas aussi homogène. Il est beaucoup plus compliqué. Par exemple, dans l'Atlantique Sud, là où le champ était faible à la surface de la Terre, eh bien, je constate que quand je suis à la surface du noyau, des lignes de champ qui sortent du sud re-rentrent immédiatement dans le sud. C'est la tache bleue. D'accord ? Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle le champ est faible. C'est tout simplement qu'une partie des lignes de champ qui auraient dû sortir ont décidé de revenir à l'intérieur du noyau. La source, elle est là. Alors, je vous ai dit qu'on avait des données historiques. Je vous ai montré les cartes. On peut les exploiter. Et on peut regarder comment le champ a évolué. Alors, j'ai de nouveau un film. Priez tous avec moi. Ce film, une toute petite remarque pour des raisons de source. Vous remarquerez que le code couleur a changé. Le bleu est en haut. C'est-à-dire que cette fois-ci, gardez en mémoire, le champ magnétique, rassurez-vous, en 1590, sortait déjà de l'hémisphère sud et rentrait déjà dans l'hémisphère nord. Nous sommes à la surface du noyau, les données n'étaient pas très bonnes, mais on peut quand même essayer de regarder ce qui se passe. Alors, est-ce que toi, tu veux bien marcher? Oui. La petite main est un bon signe. Allons-y. Alors, le temps passe. Alors, vous voyez que les choses évoluent à l'échelle du siècle. Il se passe beaucoup de choses. Il s'étache, bouge. En fait, ce que vous êtes en train de regarder, c'est la dynamo qui est en train de fonctionner. Et remarquez l'apparition de cette tache qui est quelque chose d'assez récent. Alors, je vais peut-être pouvoir me payer le luxe de vous le repasser une fois. Vous voyez que la tache, il y avait quelque chose déjà, peut-être, en 1590, mais pas grand-chose de significatif. Puis, à partir du XVIIIe siècle, on la voit en train de se construire. Et c'est cette tache inverse qui va être responsable de l'affaiblissement du champ magnétique dans la région Atlantique Sud à la surface de la Terre. Alors, regardez le champ, c'est bien. On peut essayer de faire tout un tas d'études. Alors, je n'ai pas le temps de rentrer dans tous ces détails, mais j'attire votre attention sur le fait qu'on peut exploiter ces données pour, par exemple, une chose que nous faisons régulièrement dans le laboratoire, c'est d'essayer de comprendre ce qui se passe à l'intérieur du noyau à partir des observations. On peut, par exemple, essayer de reconstituer les mouvements. Les mouvements qu'on voyait sur le petit schéma, où je vous disais, vous savez, ceux qui ont tendance à s'aligner avec l'axe de rotation à cause de la force de Coriolis. Et d'ailleurs, on représente les choses un petit peu comme des cartes de météo, avec le champ de pression en rouge et bleu, des dépressions, et en quelque sorte, je pourrais vous faire la présentation de la météo du noyau si j'étais un peu plus doué. Alors, on peut faire ça, bien sûr. On peut aussi étudier les conséquences et puis la façon dont le champ est généré en s'appuyant sur des simulations numériques qui se sont développées considérablement ces dernières années et qui permettent de faire des choses bien plus avancées qu'autrefois. Mais je voudrais revenir sur cette anomalie de l'Atlantique Sud et vous expliquer pourquoi quand même, au-delà de l'intérêt, de la curiosité scientifique, il y a lieu de se poser la question de ce que cette tâche est, d'où elle vient et ce qu'elle va devenir. Pourquoi ? Parce que, puisque le champ est faible, c'est la région où les ceintures de radiation vont pouvoir s'approcher le plus de la surface de la Terre, de l'atmosphère, et c'est du coup la région où, lorsqu'un satellite passe, malheureusement les satellites ne peuvent pas voler trop bas, sinon ils rencontrent l'atmosphère, ils ne restent pas en orbite, et lorsque ces satellites croisent cette région-là, c'est là qu'ils vont rencontrer le plus de rayonnement. Et effectivement, ils ont des problèmes. Sur cette carte à gauche, les petits points jaunes, c'est les pannes du satellite Hirschfeld, justement, qui était chargé de mesurer le champ en 1999, et qui d'ailleurs, entre parenthèses, est toujours en vie, mais est bien mal en point parce qu'il a pris beaucoup de rayonnement. Donc cette tâche est un endroit vraiment embêtant, et les satellites, de manière générale, ont beaucoup de difficultés. Donc il est important, utile, de se préoccuper de savoir ce qui peut se produire à l'avenir. Est-ce que cette tâche va disparaître ? Plutôt, elle n'était pas là. Ou est-ce qu'elle va continuer à croître ? C'est une question à laquelle il est difficile de répondre de manière précise, notamment au long terme, parce que la météo du noyau, en quelque sorte, est un petit peu comme la météo. Il y a une limite de prévision à laquelle on ne peut, au-delà de laquelle on ne peut pas aller. Et puis, de toute façon, les méthodes d'assimilation de données qu'on utilise aujourd'hui pour la prédiction météo sont encore à l'état très primitif dans le domaine de la magnéto-hydrodynamique, la science donc de la production du champ dans le noyau. On peut quand même essayer de voir, et vous voyez que si on fait une prédiction, en 1945, finalement, au début de l'ère spatiale, cette tâche était relativement faible, cette anomalie était relativement petite, ça n'était pas trop gênant, mais elle continue à croître. Et donc, il y a lieu de penser qu'il faudra faire attention avec les satellites futurs à ce type de considération. Une autre chose aussi que je voudrais dire à ce propos, c'est que vous voyez, on le devine un peu sur la carte, l'intensité globale du champ diminue aussi. Diminue moins vite que n'évolue cette tâche de l'Atlantique Sud, mais elle diminue quand même. Et évidemment, la question qui se pose aussi, c'est cette décroissance globale, est-ce qu'elle va se poursuivre ? Alors là, je vous ai dit que je parlerai un petit peu du passé, je vais y passer juste, je suis bientôt arrivé au terme de mon exposé, quelques minutes sur cette question, simplement pour vous dire qu'évidemment, il y a 5 siècles, 6 siècles, les Chinois peut-être utilisaient la boussole pour s'orienter, mais ne notaient pas de manière précise, on n'a plus d'informations historiques, plus d'informations directes. Mais l'astuce que l'on peut utiliser à ce moment-là, c'est le fait que les roches ont enregistré le champ magnétique ancien. Si vous prenez des éruptions volcaniques dont on sait très bien l'âge, ne serait-ce que pour des raisons historiques, en employant des méthodes de datation isotopique qui sont suffisamment précises pour vous dire exactement quand s'est produit l'éruption. Vous pouvez aussi utiliser, c'est le domaine de l'archéomagnétisme, des briques cuites. Une brique cuite, c'est pas une roche naturelle, mais c'est le même phénomène. Elle a été chauffée, elle s'est refroidie à l'intérieur du champ, elle vous donne des informations. Et grâce à ça, mes collègues à l'IPG qui travaillent sur l'archéomagnétisme ont pu remonter à des informations sur l'intensité passée. Et vous voyez que sur le schéma qui est en haut à gauche, l'intensité aujourd'hui est effectivement plus faible. Cette décroissance a commencé il y a à peu près 1000 ans. Avant, on voyait que ça fluctuait. Et c'est vrai, ça décroît en ce moment. En ce moment, à l'échelle historique, c'est assez rapide. D'ici 2000 à 3000 ans, si ça continuait comme ça, on n'aurait plus de champ. Mais est-ce qu'on aurait vraiment plus de champ ? Ça, c'est la question suivante, à laquelle on peut répondre en regardant encore plus en arrière dans le temps, en utilisant toujours des roches aimantées, des basaltes, mais aussi on peut exploiter une autre information qui est enregistrée dans les sédiments cette fois-ci. Je ne vous en ai pas parlé plus tôt, parce que les sédiments sont très faiblement aimantés, ce n'est pas une source en soi, mais par contre c'est un enregistreur. Et la raison est simple, les sédiments, c'est l'érosion des roches, les grains de magnétite se retrouvent au fond des océans, et puis il y a aussi des petits organismes, c'est ce dont je vais vous parler pour finir, qui comportent elles-mêmes des grains de magnétite. Et tout ça, lorsque ça tombe au fond des océans, eh bien, ça va s'orienter à l'intérieur du champ magnétique qui est présent, se tasser, et vous fabriquez un énorme enregistrement du champ magnétique ancien. Et c'est comme ça qu'on peut remonter, là je vous montre une image qui m'a été fournie par Jean-Pierre Vallet, à des informations sur le champ magnétique ancien. Alors, en bleu, c'est les informations de sédiments, en rouge, ce sont des informations données par des basaltes. Et vous voyez que alors le passé est à droite, le présent est ici. Alors, nous sommes ici. L'intensité du champ, eh bien, il n'est pas représenté dans les mêmes unités, mais c'est donc l'intensité du champ ici, voilà la flèche, est assez haute si on compare avec le passé. L'autre chose que révèle cet enregistrement, je vous ai déjà évoqué plus tôt, et ce que nous dit le paléomagnétisme, et une fois de plus, Jean Besse vous en parlera davantage demain, c'est que l'on sait que le champ magnétique s'est inversé par le passé, de nombreuses fois. Là, vous avez sur 4 millions d'années un certain nombre d'inversions, et vous voyez que la dernière inversion s'est produite il y a un peu plus de 700 000 ans, ici, et le champ magnétique était inverse. Alors, pour répondre à la question « la décroissance du champ va-t-elle se produire ?», plusieurs réponses. La première, c'est qu'il est extrêmement difficile de savoir ce que le champ va faire. Les simulations numériques nous enseignent que l'horizon de prévision du champ magnétique est probablement de quelques centaines d'années, un petit peu comme la météo, la prévision est de l'ordre de la semaine. Après, c'est très difficile de savoir ce qui se passe, même si on connaît très bien le système. La deuxième chose, c'est que de toute façon, comme vous pouvez le constater, le champ magnétique, même s'il décroît rapidement, il a une valeur aujourd'hui qui est assez élevée par rapport à des valeurs anciennes. Et de très nombreuses fois, il était aussi élevé, a décru et est revenu à une valeur qui était comparable sans qu'il y ait d'inversion. Donc il n'y a pas lieu de craindre une inversion sur la base de ce que l'on peut dire aujourd'hui. Mais évidemment, un jour, il y aura une inversion. Il y en a eu par le passé, il y en aura dans le futur. Alors, pour finir, je voudrais dire deux, trois mots sur les éventuelles conséquences d'une inversion. Qu'est-ce qui se passerait si on observait une inversion? Alors, le point le plus important, c'est que la magnétosphère deviendrait plus petite. Elle serait aussi plus complexe, parce que si on sait que le champ magnétique décroît pendant une inversion, en fait, ce n'est pas qu'il disparaît et recroît dans le sens inverse, c'est tout simplement qu'il devient plus complexe. Il ressemble plus aux cartes que je vous montrais à la surface du noyau. Il n'a plus de composante dipôle, on aurait à ce moment-là plusieurs pôles à la surface de la Terre, plusieurs pôles nord, plusieurs pôles sud. Et évidemment, la magnétosphère aurait une autre allure, mais on ne sait pas bien quelle serait la proportion exacte entre les différentes composantes. Tout ce qu'on peut dire, c'est que la magnétosphère serait de nature différente et, dans ces conditions, serait beaucoup plus vulnérable face aux tempêtes solaires. Donc, incontestablement, on aurait beaucoup plus d'orages magnétiques, beaucoup plus d'aurores boréales, qui ne seraient plus boréales d'ailleurs. Et d'autre part, s'il y a une technologie, les satellites et l'atmosphère sont en fait les principales victimes d'une telle inversion. Les satellites souffriraient énormément, ils seraient en permanence exposés au vent solaire, au moins de manière beaucoup plus courante. Alors, pour ce qui est des êtres vivants, qui est quand même une question importante, je vous rappelle quand même que même si on n'a pas de magnétosphère, on a la chance d'avoir une atmosphère. Rappelez-vous, quand le vent solaire arrive, il fait des aurores boréales, ça interagit avec l'atmosphère, mais au fond, il ne reste pas trop de choses à la surface de la Terre. Nous sommes bien protégés. C'est pourquoi je vous dis, la principale victime, c'est l'atmosphère. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous dire rapidement qu'on pense aujourd'hui que si la Terre n'avait pas eu un champ magnétique depuis plusieurs milliards d'années, on pense que la Terre a son champ magnétique, c'est le paléomagnétisme qui nous le dit, depuis très longtemps, probablement dès la formation du noyau. Et ce que l'on sait, c'est que s'il n'y avait pas de champ magnétique, il est très probable que l'atmosphère de la Terre serait très différente aujourd'hui. C'est d'ailleurs un axe de recherche actif pour comprendre la différence des atmosphères entre la Terre et les autres planètes, comme Vénus, qui n'a pas de champ magnétique, et Mars, dont on sait qu'il n'a plus de champ magnétique depuis très longtemps. Donc l'atmosphère serait la première victime. Nous, on aurait sans doute quelques conséquences, mais pas forcément de choses très graves. D'ailleurs, une inversion ne dure que quelques milliers d'années. Et jusqu'à nouvel ordre, aucun lien n'a été établi entre les inversions et les disparitions d'espèces. D'ailleurs, comme les inversions se produisent quand même assez souvent, il est heureux qu'on soit relativement insensible à ces inversions. Alors un point important, c'est même les animaux qui utilisent le champ magnétique ont survécu aux inversions, manifestement. Les oiseaux, j'ai repris l'oiseau de l'image, de l'affiche, Je vous ai mis ici une liste que je pense ne pas être exhaustive, mais simplement vous montrer qu'aujourd'hui, on pense qu'il y a une très longue liste, énormément d'animaux qui sont susceptibles de sentir le champ magnétique. Alors, dans certains cas, on sait que l'animal sent le champ magnétique, on sait même comment il peut utiliser cette information magnétique. Dans d'autres cas, on se contente de savoir que l'animal sent le champ magnétique sans trop savoir l'information qu'il peut tirer de ce sens. Et dans d'autres cas, on ne sait pas très bien si l'animal sent véritablement, mais on sait que ces animaux ont eux aussi en tout cas de la magnétite dans le corps qui pourrait leur donner des informations. Alors là, je vous donne le cas le plus joli, le plus simple, d'animal qui sent le champ magnétique, ce sont les bactéries magnétotactiques qui ont été découvertes dans les années 70. Ce sont des bactéries qui réussissent l'exploit assez extraordinaire de synthétiser de la magnétite à l'intérieur. C'est une magnétite qui est synthétisée de manière biologique. Et il s'agit de grains extrêmement purs. Rappelez-vous, le tout début de mon exposé, il y avait ces domaines de Weiss, où on voyait que tous les atomes étaient bien alignés pour être utilement aimantés. Eh bien, ces bactéries réussissent à faire des aimants extrêmement purs, ce qui leur permet, en fait, d'avoir, elles ont littéralement avalé un barreau aimanté. Alors évidemment, quand on se promène dans le champ magnétique, si le champ magnétique s'incline, on s'incline un peu. Et quand on fait le bilan des forces, on se rend compte que le couple exercé est assez important. Et ces animaux-là, ces petites bêtes, sentent le champ magnétique au point de suivre les lignes de champ magnétique dans un sens, dans l'autre. Alors il existe différents types de bactéries magnétotactiques, mais c'est assez spectaculaire. Alors je voudrais finir quand même avec ça. Ce petit film, qui, s'il veut bien marcher, vous montrera ce que j'appelle le balai magnétique des bactéries magnétotactiques, que je dois donc à nos collègues de Munich, et qui vous montre, je vous dis rapidement, en haut à gauche, vous allez voir apparaître une espèce de petite horloge, voilà, qui vous donne la direction du champ magnétique vers la gauche. Et vous voyez les petites bactéries qui se précipitent à gauche. Si on retourne, c'est en temps réel, vous voyez les bactéries qui repartent dans l'autre sens. Et on peut même s'amuser et voir comment les bactéries réagissent si on les taquine. Vous allez voir. Là, pour l'instant, elles rencontrent une barrière, ça ne sait pas trop quoi faire. Et là, dans un instant, le champ magnétique est suffisamment puissant pour contrer le champ magnétique naturel. Il n'est pas très intense, il est simplement suffisamment intense pour être plus important. Alors, vous voyez, si vous faites tourner les bactéries suivent. Donc, c'est tout à fait remarquable. Alors, dans le cas de celles que vous voyez ici, ce sont des bactéries qui sentent le nord et le sud. Et chose tout à fait remarquable, on trouve des bactéries dans l'hémisphère nord qui réagissent en allant vers le nord parce que dans l'hémisphère nord, ça leur permet de savoir où est le haut, où est le bas. Elles utilisent cette information puisque dans le nord, le champ magnétique plonge. Mais dans l'hémisphère sud, évidemment, le champ magnétique dans le mauvais sens. Et on trouve des bactéries magnétotactiques qui, elles, utilisent le champ dans l'autre sens. Elles ont appris, elles savent que c'est le sud. Et si vous mettez des bactéries magnétotactiques du nord au sud, alors elles sont embêtées. Et la raison pour laquelle je vous dis ça, c'est que c'est ce qui se produirait s'il y avait une inversion. Mais la chose remarquable, c'est que si on fait des cultures de ces petites bactéries dans le mauvais hémisphère, ou plutôt avec évidemment, des bobines, c'est un petit peu plus facile à faire, et bien très rapidement, elles vont apprendre, et très rapidement vont apparaître des bactéries qui vont avoir enregistré le fait que le champ magnétique, il est dans l'autre sens, et bien c'est comme ça. Et d'ailleurs, j'aimerais finir mon exposé, parce que là, j'arrive au terme de mon exposé, avec juste une petite réflexion sur la raison pour laquelle les animaux qui sentent le champ magnétique, on sait qu'ils utilisent l'information, mais on sait aussi qu'aucune de ces espèces, aucun de ces animaux n'a besoin du champ magnétique de manière critique. Et je pense tout simplement que la raison en est que le champ magnétique s'est régulièrement inversé. Et si vous apprenez quelque chose, si vous êtes trop dépendant sur une information définitive sur le champ magnétique, eh bien vous allez avoir des difficultés pour survivre. Les pigeons, bien entendu, auraient du mal. D'autres animaux auraient du mal pendant une inversion parce que le champ magnétique serait plus compliqué. Mais au fond, on sait, par exemple, dans le cas des pigeons, que s'ils sont désorientés par le champ magnétique, bon an, mal an, ils utilisent un autre sens pour s'orienter. Donc, la raison pour laquelle, ça c'est mon point de vue, je vous livre ça, La raison pour laquelle le champ magnétique n'est pas utilisé de manière critique par les animaux est probablement liée au fait que le champ magnétique s'est inversé par le passé. Merci beaucoup.
Nous allons passer aux questions.
Je peux reprendre le... Ah, pardon, excusez-moi. Juste une toute petite chose. J'attire votre attention sur le fait que dans la forêt d'Orléans, où se trouve l'observatoire de Chambon-la-Forêt, les visiteurs sont la bienvenue. Et il y a même un petit musée. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller consulter le site et à aller rendre visite à l'observatoire. Vous y serez la bienvenue.
On a une question à gauche. Vous voyez ?
Bonsoir. En fait, j'aurais deux questions. D'abord, une première question sur les différentes composantes du champ magnétique. Vous avez exposé le champ magnétique lié aux roches, lié aux noyaux, lié à l'ionosphère, à la magnétosphère. Et vous aviez expliqué que vous pourriez les décomposer alors qu'en fait, on ne mesure que la somme de tous ces champs magnétiques. Donc j'aurais aimé savoir un petit peu de quelle façon vous pouviez décomposer les différentes composantes du champ. Et ma deuxième question, ce serait par rapport à l'inversion du champ magnétique qui se produit apparemment régulièrement dans l'histoire. Est-ce qu'on a un indice sur comment ça se produit ? Parce que si j'ai bien suivi votre explication sur l'origine du champ magnétique dans le noyau, c'est quelque chose d'auto-entretenu, donc ça veut dire que si ça s'inverse, c'est que ça se met à tourner dans l'autre sens, par exemple. Donc voilà, si vous avez une explication. Merci.
Oui, alors donc il y a deux questions. J'ai déjà oublié la première. Ah oui, comment on sépare les différentes sources ? Alors ça, c'est une question qui est assez technique, mais rapidement, il y a une première façon de faire, qui est d'utiliser tout simplement la différence de comportement temporel. Tout ce qui est rapide, on le sait, ne peut pas venir du noyau pour une raison assez simple, c'est que le manteau, dont je vous ai dit qu'il n'était pas très conducteur, il est quand même un peu conducteur. Et l'effet de ce manteau, c'est de filtrer les hautes fréquences. Donc tout ce qui se passe rapidement dans le noyau, on ne peut pas le voir. Donc on sait que ce n'est pas lui qui fabrique ça. Donc tout ce qui est très rapide, c'est forcément quelque chose qui est produit par la magnétosphère ou l'ionosphère. Bon, il y a ce type de raisonnement. C'est plus délicat quand on veut raffiner certaines choses, comme par exemple isoler le champ magnétique de la croûte. Là, il y a un certain nombre de théorèmes mathématiques qui nous permettent de dire que si j'observe convenablement le champ magnétique sur l'ensemble de la surface de la Terre, je suis capable, c'est Gauss le premier à avoir démontré ça, je suis capable d'identifier ce qui vient de l'intérieur de ce qui vient de l'extérieur. C'est mathématique, c'est lié aux propriétés du champ magnétique qui est un champ potentiel. Et c'est comme ça d'ailleurs que Gauss le premier a fait la démonstration de ce que le champ magnétique venait de l'intérieur de la Terre. Lui, il ne savait pas de quoi la Terre était constituée. Il n'y avait pas encore la sismologie. Alors pour votre deuxième question, comment est-ce qu'une inversion peut se produire ? Alors, c'est une question délicate parce qu'en fait, je dirais pour simplifier, la dynamo fait des inversions parce qu'elle a le droit de faire des inversions. Et la deuxième chose, c'est que c'est un système non linéaire. Donc un système non linéaire, quand on regarde les équations, on sait que les équations sont invariantes par changement de signe du champ magnétique. C'est-à-dire que si à l'instant donné, par exemple, j'étais Dieu, et je décidais que je mettais les courants électriques dans l'autre sens, exactement, et bien le champ magnétique continuerait de la même manière, simplement il serait exactement dans l'autre sens, mais exactement de la même manière. Les équations sont invariantes dans ce changement de signe. Par contre, vous avez dit une chose, c'est est-ce qu'il est nécessaire que les mouvements s'inversent ? Non, non. Il n'est pas nécessaire que les mouvements s'inversent. Et donc en fait, une inversion est quelque chose qui peut se produire assez spontanément. Et c'est d'ailleurs ce qui se produit dans toutes les simulations numériques. Et les gens sont très actifs pour essayer de voir ce qui est la cause, pour quand même essayer de deviner quand est-ce qu'une inversion va arriver. Mais c'est extrêmement délicat.
Une question à gauche.
Les mouvements du fer fondu du noyau liquide doivent être chargés électriquement pour créer des courants électriques. Est-ce bien vrai ?
Non, ils ne sont pas à proprement parler chargés électriquement, ils sont neutres, mais ils sont parcourus de courants électriques. De même que quand vous avez un fil électrique, le courant le parcourt sans qu'il soit chargé. Vous ne ressentez pas d'électricité statique si votre fil électrique, enfin du moins si votre appareil est bien, n'a pas chargé d'électricité statique parce qu'il était mal branché, mais il n'y a pas de charge totale qui apparaisse. Donc c'est simplement, c'est un conducteur, hein, tout simple, c'est du fer.
Une question à droite.
Deux petites questions. Est-ce que lorsque des roches ont été magnétisées à un moment historique, parce qu'elles se sont refroidies, est-ce que ce magnétisme rémanent est définitif ou s'il peut évoluer avec un autre magnétisme qui se présente? Alors, secondo, on pose une toute petite question. Est-ce que c'est vrai que ça vaut la peine de se coucher en direction du nord, sur la tête en direction du nord?
Alors, je vais répondre aux deux questions. Pour ce qui est de la première question, vous avez tout à fait raison. Il n'est pas du tout trivial de comprendre pourquoi une roche qui a acquis une aimantation il y a plusieurs milliards d'années dans certains cas, pourquoi cette roche a toujours cette aimantation? Pourquoi n'a-t-elle pas disparu? La réponse n'est pas facile à donner. Elle a été donnée par Néel, qui a regardé le premier, le magnétisme des roches, et c'est lié à la distribution des grains magnétiques. Les grains qui gardent le mieux la mémoire du champ magnétique sont ceux des bactéries magnétotactiques, tout simples, monodomaines, dans lequel le domaine de Weiss est de la taille du grain. On peut montrer que le temps qu'il faudrait pour faire disparaître une aimantation spontanément dans un domaine, dans un grain un peu plus grand, eh bien, est lié à la taille du grain. Et dans le cas, quand on fait le calcul qu'avait fait Néel, eh bien, on atteint des temps qui sont bien considérables, de plus bien au-delà du milliard d'années. Donc la théorie a été faite. Par ailleurs, une autre chose quand même qu'il importe de souligner, c'est à condition bien entendu que vous ne réchauffiez pas votre roche. Si par exemple la roche est réchauffée parce que vous avez du métamorphisme, ou bien alors si votre roche est altérée, subit des modifications chimiques, à ce moment-là, bien entendu, vous allez avoir un autre signal. Mais les paléomagnéticiens, qui sont des gens malins, savent repérer les mauvaises roches et ont des techniques pour détecter quand l'aimantation n'est pas aussi primitive que ce qu'on pourrait croire. On peut même retrouver des informations sur l'histoire magnétique d'une roche. Alors, quant à votre deuxième question sur l'opportunité de se coucher dans une direction ou l'autre, alors j'ai regardé un petit peu la littérature là-dessus, et ces derniers temps, il y a eu des affirmations, d'expériences ont été faites pour savoir si l'homme était capable de sentir le champ magnétique. Et au jour d'aujourd'hui, toutes les expériences qui ont été faites, reproduites, etc., montrent que l'homme ne sent pas le champ magnétique, donc n'a pas a priori... Alors je parle bien du champ magnétique permanent, hein, c'est du tout dans notre histoire s'il s'agissait de champ magnétique, électromagnétique. Hein. Donc il n'y a pas vraiment de raison de se coucher dans une direction ou une autre, puisque apparemment les expériences montrent que l'homme ne s'en rend pas compte. Alors juste un tout petit détail, les animaux, eux, font des choses orientées par le champ magnétique. Par exemple, les abeilles utilisent le champ magnétique pour construire leurs rayons. Et la réponse, à mon avis, je n'ai pas posé la question aux biologistes, mais à mon avis, c'est tout simplement que dans une ruche, il fait noir. Si vous voulez faire quelque chose de droit, bah, c'est pratique d'utiliser le champ magnétique. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir aligner. Et on peut faire des expériences où si on modifie le champ magnétique, à ce moment-là, les abeilles vont s'en rendre compte. Accessoirement, d'ailleurs, je vous signale que dans l'Antiquité, comme l'a montré l'exposé d'hier, les Chinois, par exemple, considéraient le champ magnétique comme quelque chose de très important et alignaient leurs grandes avenues sur le champ magnétique. Mais c'était évidemment pour d'autres raisons, des raisons de croyance. Il n'y a pas que les Chinois, d'ailleurs. Vous avez des églises en Scandinavie, les deux parties d'une église construites à deux époques différentes avec un alignement légèrement cassé parce qu'on utilisait l'orientation du champ magnétique pour construire le bâtiment. Il y a des anecdotes comme ça. Voilà.
Nous avons une question en haut à droite.
Oui, il y aurait deux questions. La première, à savoir, depuis un certain nombre d'années maintenant, les satellites ont recorrigé la vision de la planète Terre que l'on avait, c'est-à-dire qu'ils ont démontré que la planète n'était pas vraiment un ballon de football, sans renier Galilée pour autant, mais ils ont démontré qu'elle est aplantie au pôle, c'est-à-dire qu'elle est plutôt un ballon de rugby, qu'elle est plus ovoïde. Est-ce que cette correction a introduit des modifications de mesure du magnétisme? Et d'autre part, la seconde question, c'est, vous présentiez tout à l'heure le schéma des différentes couches planétaires. Par quels instruments moyens on peut affirmer qu'il y a une graine et un noyau ?
Bon, alors, il semblerait que tout le monde pose deux questions. Alors, à chaque fois, vous faites un effort de mémoire. Donc, la première question sur le fait que la Terre est légèrement aplatie. Effectivement, le rayon de la Terre est de 20 km plus long à l'équateur qu'au pôle. Et c'est tout simplement lié à la rotation de la Terre, la force centrifuge qui dilate la Terre. Bien sûr, la forme de la Terre est prise en compte quand on fait les mesures. Et ça n'est pas en soi un obstacle particulier aux études que je vous ai montrées. On en tient compte, bien sûr. Alors, pour ce qui est de votre deuxième question, que évidemment j'ai oubliée, rappelez-moi ce que vous disiez. Oui, comment fait-on pour savoir l'intérieur, de quoi est constitué l'intérieur de la Terre ? L'outil principal, alors je vais essayer de faire vite, avec la sismologie. La sismologie, c'est très simple. Si vous avez une discontinuité, vous avez une onde qui remonte. C'est un écho. La sismologie, ça consiste à faire ce que vous faites quelquefois quand vous avez dans une région avec un écho, vous émettez le son, et vous regardez au bout de combien de temps c'est revenu, vous connaissez la vitesse du son, vous vous dites c'est à telle distance. C'est exactement ça la sismologie, sauf qu'on utilise les tremblements de terre pour faire le bruit initial, la source. Donc on peut déterminer la vitesse de propagation à l'intérieur de la Terre, la distance, et donc on sait qu'il y a ces couches. Alors après ça, la question se pose de quoi sont-elles faites ? On est capable de remonter à la densité avec des considérations sur la mécanique céleste. La façon dont, comme la Terre est précisément aplatie, on peut avoir des informations sur les moments d'inertie et on sait qu'il y a une masse, une densité plus importante à l'intérieur de la Terre. On a des informations aussi grâce à la géochimie. En observant les météorites, en observant la composition du Soleil, en comprenant comment le système solaire s'est construit, on sait que la Terre, dans son ensemble, doit avoir une composition chimique proche de reste du système solaire. Et il n'y a pas assez de fer à la surface de la Terre. Il n'y a pas assez de fer, on le met dans le noyau, c'est la bonne densité. Et puis au fond, en dernier lieu, eh bien justement, il y a une dynamo, il faut bien quelque chose de conducteur. Donc tout converge, c'est pourquoi on peut affirmer qu'il y a un noyau liquide de fer et au centre, une graine dont on comprend d'ailleurs au passage qu'elle existe parce que c'est la partie cristallisée du noyau, parce que la pression devient suffisamment forte. Alors vous allez me dire, il y fait plus chaud. Oui, mais il y a toujours une compétition. Si vous appuyez sur un liquide, si vous le mettez à haute pression, il finit par cristalliser. Et ce qui emporte la bagarre entre les deux phénomènes, c'est la pression. C'est pour ça qu'on est une graine cristallisée. Donc, si vous voulez, on a une telle convergence d'informations qu'il y a peu de doutes sur ce que je vous affirmais plus tôt.
Nous passons aux deux dernières questions. Une question à gauche.
Oui, merci pour votre exposé. En fait, moi, je voulais revenir un peu sur le thème de l'inversion. Est-ce que, justement, les déplacements des pôles nord et sud magnétiques qui se baladent un peu, qui ne sont pas très fixes, au-delà des problèmes de fluctuation d'intensité, pour apporter un peu de l'eau au moulin de la possible inversion, et cette fameuse anomalie tache bleue dans l'Atlantique Sud, ne serait-elle pas plus révélatrice d'une possible inversion que les fluctuations d'intensité, finalement ?
Évidemment, tout est lié. Dans un système comme la dynamo, tous les phénomènes, et comme dans tout système non linéaire, quand il se passe quelque chose quelque part, ça a une influence sur le reste. Il est clair, et on peut montrer, que l'apparition de la tache bleue, comme vous le dites, et l'une des raisons pour lesquelles le champ magnétique est en train de décroître globalement. Mais maintenant, comme je vous le disais dans l'exposé, arriver à extrapoler ces observations au-delà de quelques dizaines d'années, voire de quelques siècles, relève de quelque chose qui n'est fondamentalement pas possible à cause de cette nature non linéaire. Ce sont les travaux de Lorenz, le météorologue Lorenz, qui avait établi ça, et c'est la raison fondamentale pour laquelle on n'arrive vraiment pas à prédire la météo au-delà d'une certaine durée. Alors on progresse un petit peu, mais fondamentalement on ne peut pas aller au-delà d'une certaine durée. Après ça, on est obligé de faire des prédictions de type climatologique, c'est-à-dire un ensemble de solutions possibles et d'évolutions possibles, mais sans pouvoir être précis. On ne sait toujours pas le signe précurseur d'une inversion.
La question est en haut à droite.
Je tiens cette information d'un acupuncteur chinois. Est-elle crédible ? Nous posséderions des cellules magnétiques et nous réagirions ainsi au froid, au chaud, et c'est comme ça que nous aurions des douleurs.
Oui, alors ça, je ne suis pas un acupuncteur, donc je ne peux pas répondre précisément à cette question. Ce que je peux dire, par contre, c'est qu'il y a effectivement dans le corps humain des particules de magnétite, comme on en a trouvé, comme je vous le disais un petit peu plus tôt, enfin à la fin de mon exposé, particules magnétiques. Mais on ne sait pas le rôle que ces particules peuvent jouer. Et alors peut-être que l'explication est dans l'acupuncture, je ne sais pas, mais il n'y a pas de démonstration, par contre, comme je le disais à madame tout à l'heure, que l'homme peut effectivement tirer parti, de manière consciente en tout cas, du champ magnétique. Il ne se comporte pas différemment si on modifie le champ magnétique. On n'a pas pu établir un lien entre le champ magnétique et le comportement de l'homme. Donc oui, il y a des particules. Non, on ne sait pas à quoi elles servent. L'acupuncture, je ne sais pas.
Merci Gauthier Hulot pour cette conférence.
Merci.